Oui, bonsoir Tristan et bonsoir tout le monde. Alors, je suis dans une salle qui ressemble à un bureau. Il y a des personnes autour de moi, plutôt féminines. J'arrive pas vraiment à distinguer des visages ou des personnes que je connais, mais voilà, je sens qu'il y a des présences. Donc, je suis à côté d'un bureau, quoi, comme vous pouvez imaginer, et à ce moment-là, entre plusieurs personnes, et notamment des enfants. Et en fait, ce sont des personnes qui recherchent un soutien psychologique. Et donc, je les accueille et on discute. Et puis, je leur donne des coordonnées d'autres personnes qui pourraient aussi éventuellement les aider. Et en fait, quand je leur donne les coordonnées, c'est sous forme de papier. En fait, c'est un nom que j'ai écrit sur un papier. Et au moment de leur donner, ils me disent qu'ils préfèrent me voir, moi. Donc, j'accepte la proposition, je les fais entrer dans une autre salle, et à ce moment-là, je distingue mieux les personnes qui sont en face de moi. Et ce sont deux enfants, je dirais un enfant de 12 ans et puis un autre un peu plus âgé, 15-16 ans, qui sont deux frères, hein, et ils sont noirs de peau. Et je leur demande ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et aussi, je leur demande où est-ce qu'ils habitent. Donc, l'aîné me répond qu'ils habitent dans le 8e et qu'ils sont là parce que, c'est très bizarre, hein, et qu'ils sont là parce que leur mère a 100 ans et leur père a 20 ans. Et en fait, au moment où le jeune homme de 15 ans me dit ça, il me regarde avec un étonnement, l'air de me dire, voilà, vous comprenez pourquoi je suis là. Voilà. Ensuite, deuxième séquence du rêve. Je suis dans une salle qui ressemble un peu à un cachot, un peu, je sais pas, une salle de gym ou un truc, mais qui fait très endroit caché, cachot, dans les tréfonds, quoi. C'est un endroit fermé. Et il y a plein de personnes, comme des réfugiés. Et je me tiens parmi ces personnes-là. Et en fait, je me rends compte qu'on est enfermé depuis un certain moment. Et en fait, je cherche des solutions pour pouvoir sortir. Et le temps passe, et j'ai une impression comme ça de temps dans cet endroit-là qui correspondrait à plusieurs années. Et je me rends compte qu'on n'a ni eau, ni alimentation, rien du tout, et qu'on est coupé du reste du monde. Au moment où je prends conscience de l'enfermement, qui est certainement voulu et organisé, à ce moment-là, je me dirige vers un espèce de grillage qui correspondrait à la porte d'entrée ou de sortie de ce lieu-là. Et quand j'arrive à ce grillage, je regarde à l'extérieur. Et à l'extérieur passent plusieurs véhicules, et notamment un vélo avec un homme dessus. Et en fait, le vélo s'éloigne et je regarde la personne qui retourne son visage vers moi. Nos yeux se croisent et à ce moment-là, il revient avec son vélo. Il se met devant le grillage comme ça et puis je lui raconte qu'on est enfermé, qu'on a besoin d'aide. Et en fait, lui, il récapitule ce que je lui dis, mais de façon complètement déformée. Et je crois qu'il ne comprend pas du tout l'enjeu et ce qui se passe. J'ai l'impression d'être avec un fou, quoi. Enfin, je me dis dans ma tête, j'ai appelé la mauvaise personne. Et en fait, il s'en va. Et donc, pas de solution à mon problème et à notre problème. Je reviens ensuite dans le fond de la salle. Et puis là, je me connecte à un ordinateur. Je cherche des choses sur Internet, tout ça. Et puis ensuite, je me relève et je vois que la porte, cette même porte grillage, est ouverte. À ce moment-là, je cours et je sors de cet endroit. Et au moment où je cours et je sors, je me dis, mais c'est idiot, en fait, l'accès était libre. Et je m'en vais et là, je me retrouve sur une montagne. Et quand j'arrive sur cette montagne, il y a plusieurs personnes qui sont assises sur des chaises. Et en fait, je m'installe parmi elles et je prends une espèce de châle, enfin, comme un manteau sur mes épaules. Et je commence à raconter l'histoire. Enfin, et au moment où je leur raconte l'histoire, on essaye de trouver des solutions pour faire sortir les autres personnes qui sont restées dans l'endroit que j'ai quitté. Et le rêve s'arrête comme ça.
Vous êtes bien soucieuse des autres.
Bah, visiblement, oui.
Oui, puisque donc dans la première partie, vous voilà comme une sauveuse. Et d'ailleurs, c'est vous que l'on demande. C'est vous, quand vous faites quand vous confiez les personnes à une autre personne, les deux garçons qui sont venus vous voir,
Oui.
finalement, c'est après vous qu'ils réclament.
Oui.
Et donc, vous cédez à leur demande, puisque vous allez les introduire dans votre bureau. Et là, vous allez apprendre leur histoire. Et dans la deuxième partie, vous êtes vous-même sorti de votre enfermement et vous aimeriez aider les autres à les faire sortir.
Oui.
Alors que il n'y a pas d'enfermement réel, puisque vous êtes aperçu que la porte était ouverte. Donc là, c'est une magnifique parabole sur l'auto-enfermement, les contraintes que l'on se met et les issues que soi-même nous pouvons trouver. Seulement
D'accord.
nous-mêmes, nous pouvons les trouver. Alors, je me posais la question de savoir qui pouvait être cet homme qui déforme vos propos. Qu'est-ce qu'il y aurait comme identifiant qui permettrait de repérer qui il est?
Vraiment, il n'y a aucun identifiant, il ressemble à aucune des personnes ou à aucun homme que je connaisse. Et ah oui, j'ai oublié de dire qu'au moment où je sors donc à l'extérieur, je cours donc pour ne pas être attrapée certainement par les personnes qui ont commis cet enfermement, donc dans ce lieu. Et au moment donc où je cours, je rentre dans un taxi. Voilà, c'est juste un jeu. Je monte dans un taxi et la voiture m'emmène vers la montagne. Et par rapport au personnage donc qui était à vélo, vraiment, je ne vois pas qui il peut être, sinon, une personne qui n'avait rien à faire là, quoi, puisqu'il ne m'a pas aidé et il a aidé personne au final. Puisque il a entendu le message que je lui ai dit, alors peut-être mal dit, sur l'enfermement dans lequel nous sommes, et il n'a pas vraiment compris. Enfin, il a fait une espèce d'auto, comment ça s'appelle, un monologue avec des propos déformés, un peu comme un fou, quoi, un peu comme voilà, comme une personne qui n'a pas ses capacités psychiques en place. Donc je ne sais pas qui il est. Il est à vélo, c'est tout ce que je sais. Et après lui, de toute façon, moi je reviens chercher une solution de mon côté toute seule. Et puis au moment où j'ai trouvé la solution, enfin je ne sais pas quelle est cette solution, mais enfin je la trouve et à ce moment-là la porte est ouverte et je m'en vais.
En tout cas, il vous aura renvoyé à vous-même, puisque donc, comprenant que vous n'aurez pas d'aide de l'extérieur, c'est à ce moment-là que vous allez trouver une solution qui va vous permettre de sortir. Le seul identifiant que cet homme aurait, c'est son vélo, mais vous n'avez pas une idée de sa tranche d'âge.
Oh, je dirais une quarantaine d'années.
Donc, il pourrait représenter le profil d'homme que vous rencontrez. Ou est-ce que le fait que vous parliez au travers du grillage ferait envisager un confessionnal et donc plutôt quelqu'un chez qui vous êtes allé parler?
Non, parce qu'en plus il est chauve, je me souviens juste d'un signe identificatoire, il est un peu ah, oh là là, n'importe quoi. Vous savez quoi, j'ai oublié un détail hyper important. Flashback, attendez,
Hyper
flashback,
important.
ça vient de me revenir là. Oh, incroyable. Au moment où donc je me rends compte qu'on a rien à manger, qu'on n'a rien à boire et qu'on est dans ce cachot, à ce moment-là, je vois ma sœur qui feuillette un livre. Et c'est un vieux livre avec des paysages et tout. Et puis elle est en train de lire un truc et elle me dit, enfin, elle me dit quelque chose. Elle essaye de me montrer quelque chose dans ce bouquin-là. Ensuite, elle disparaît. Et à ce moment-là, je vois le visage, enfin plutôt même le profil d'une personne qui est décédée et que j'ai connue, mais qui est décédée et qui approchait la quarantaine. Et en fait, quand je le regarde, je suis très étonnée. Et je le regarde d'un air, mais je croyais que t'étais mort, toi. Mais t'es pas mort. Et en fait, il est pas mort, quoi. Il est dans mon rêve. Je
Alors,
sais pas si.
précision pour nous qui vous écoutons, cet individu qui donc est décédé maintenant, qu'est-ce qu'il représentait pour vous?
C'était un ex à moi.
Un ex, d'accord. Donc, ce sont les figures masculines que vous avez rencontrées qui n'ont rien pu pour vous jusqu'à présent.
Ah oui, peut-être, oui.
Comme s'il y avait une attente quand même de votre part, quand vous rencontrez une personne, d'une aide qui puisse vous aider à être sauvée. Mais c'est vous la sauveuse, hein. Puisque dans la première partie, c'est vraiment ce qu'on attend de vous. Et les hommes que vous... Parce que là, j'avais pensé que c'était des génériques d'hommes que vous ayez déjà rencontrés, qui étaient représentés. Et donc, des formes qui seraient assez immatures et qui attendent beaucoup de vous. Avec, nous le comprenons, une difficulté pour eux à être des hommes, puisque le père sera représenté comme étant extrêmement juvénile, immature, et la mère très lointaine. Mais ça me faisait penser, cette définition de leur couple parental, aux deux premières arcanes du tarot, puisque la femme et l'homme sont représentés de façon singulière. L'arcane 1, c'est le battleur qui représente un jeune homme, et donc le 1 représente l'homme. Et la femme est représentée par qui est donc l'arcane 2, par la papesse, qui est une femme âgée et qui possède le livre de la connaissance sur ses genoux. Donc, comme s'il y avait une différence de connaissance entre l'homme et la femme. Et c'est un petit peu ce que vous mettez en scène dans votre rêve.
Et oui, et donc cette mère de 100 ans et le père de 20 ans, ben ça fait 80 années de différence. Moi, j'étais partie dans ce sens-là. Mais...
Non, parce que là, il y aurait justement une inversion, puisque si on reprend les chiffres, 20 c'est le 2 et 100 c'est le 1. Et donc, l'attente que vous auriez vis-à-vis des figures parentales serait donc... que le père soit présent et prenne sa place et qu'il donc transmette quelque chose, qu'il vous nourrisse.
Oui.
Mais les valeurs sont inversées. C'est la femme qui prend la place de l'homme avec le 1. Et donc la souffrance que vous voyez chez jeunes hommes vient donc d'une reproduction de schéma. Le père n'est jamais là, il est immature, il n'est pas assez présent et donc il n'apporte pas les apports énergétiques, culturels, intellectuels. Dont l'enfant a besoin pour se nourrir.
Étonnamment, quand il me raconte son histoire, ce jeune adolescent, en fait, j'ai l'impression qu'il est tout à fait bien malgré cette disparité d'âge du couple parental. C'est-à-dire, quand il me raconte cette histoire, il a les yeux émerveillés, enfin, il est bien, quoi. Et il a une bonne tête, il a un bon visage et il est aspirationnel. Ouais, ouais. Et je suis assez étonnée de ça. Mais alors, le fait qu'il soit noir, ça indique quelque chose ou pas?
Oui, c'est une part d'ombre. Ce sont donc des éléments qui sont encore occultés et qui ont du mal à prendre conscience. Donc, ça peut être votre propre animus qui est représenté, qui vient à votre rencontre et qui a besoin d'être nourri. D'où cette demande d'aide. Mais je pense que dans votre relation aux autres, vous jouez trop la sauveuse, hein, et que inconsciemment, vous vous dirigez vers des formes infantiles. Et ce qui n'empêche pas qu'ils soient pleins de qualités et qu'ils soient donc dans leur intégrité d'individu, puisque là, vous voyez un physique avenant et souriant, avec des yeux lumineux, c'est ça?
Oui.
Mais par contre, il aura manqué, comme à vous, il a manqué cet apport d'énergie, d'électricité, de lumière, de nourriture, il aura manqué beaucoup d'éléments. Mais malheureusement, l'homme, si on reprend la définition des deux arcanes du tarot, l'homme est un être qui a besoin d'apprendre les choses, alors que le féminin symboliquement sera représenté par une forme qui a accès à la connaissance de ses mères précédentes.
De façon intuitive, plus intuitive peut-être.
De façon plus intuitive, puisque si on prend l'arcane de la papesse du tarot, elle représente, on voit une femme assez âgée, avec donc le livre de la connaissance sur ses genoux qu'elle n'a pas besoin de parcourir. Donc comme si la matrice transmettait aux autres matrices des informations. Donc ce ne sont pas des informations qui arrivent de façon consciente, mais qui peuvent se manifester dans beaucoup de situations.
D'accord, mais qu'est-ce que ça peut me dire à moi directement, puisqu'étant donné j'ai aussi
que vous jouez le rôle de cette papesse.
Comment, pardon?
Que vous jouez le rôle de cette papesse. Et que malheureusement vous restez enfermé dans ce rôle. Et que si vous nourrissez les autres, personne ne vous nourrit.
Oui. Ben, c'est un constat.
Voilà, c'est un constat, et donc ce serait un schéma de reproduction transgénérationnelle où les femmes sont toujours dans l'attente de l'homme sauveur, mais elles jouent les sauveuses.
En attendant.
En l'attendant, voilà.
Ok.
Et donc.
Et est-ce que le rêve propose un éventuel changement de directive de ma part, ou est-ce
Ah, bah
que je
oui,
vais être
oui.
cantonnée à répéter
Non,
ce
puisque.
schéma-là, transgénérationnel,
Mais non,
etc.,
puisque de
etc.?
façon magnifique, vous sortez de cet enfermement.
Ah, d'accord.
Alors, donc là, comme vous parlez au travers d'un grillage à l'homme, je pensais au confessionnal, et donc il est possible que ce soit une figure de thérapeute qui soit représentée, une figure de psy.
D'accord, mais si c'est un psy, il n'est pas du tout à sa place, puisqu'il ne m'aide pas.
Ben, oui et non. C'est là le paradoxe, puisque donc il est probable que vous ayez consulté et que vous ayez vu quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris votre histoire. Et donc vous avez été déçu, puisque
Oui, c'est juste.
les reflets qu'il vous propose, les propos qu'il répète, sont déformés, sont interprétés, donc vous n'êtes pas entendu et pas comprise. Mais ça vous renvoie à vous-même. Et donc ça a quand même fonctionné, puisque ça vous renvoie à vous-même et ça vous permet de sortir. Donc il n'y a plus d'attente de sauveur, vous vous sauvez vous-même.
Super.
Plutôt que de sauver les autres, ce qui n'est pas mal. Mais donc il y a quand même une image d'un homme qui a disparu. Alors, est-ce que vous avez, quand votre père avait 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a disparu dans votre vie?
Quand mon père avait 40 ans, attendez, faut que je fasse le calcul, je suis pas bonne en maths.
Oui.
J'étais oui, j'étais en période adolescente, oui, déjà.
Donc, il est possible que
Donc.
vous ayez compris que votre père n'ait pas été assez présent et que vous ayez pris conscience de cette disparition. Mais comme l'homme réapparaît, il est possible que donc vous puissiez revaloriser aujourd'hui l'image du père, pas forcément le vôtre, mais l'image du père.
D'accord. Ça me renvoie peut-être à une histoire. Enfin, l'homme là qui a disparu et que je revois en rêve et que j'ai vraiment connu, il est décédé à 37 ans, 36, 37 ans. Donc, ah oui, c'est un peu moins de 40 ans. Mais si c'est l'image du père, ça peut me faire penser aussi quand j'étais petite, 4-5 ans. Mon père a fait un grave accident de voiture où il a failli mourir, où il est resté dans le coma, etc. Et je pense que ça, c'est peut-être un résidu de ça, non? Que
Alors,
j'ai
ça
une.
pourrait être ça, mais cherchez l'âge exact que vous aviez quand votre père avait 37 ans, donc pas forcément maintenant, pour voir ce qui a pu se produire dans votre psychisme, puisqu'il semblerait que vous ayez fait le deuil du père à ce moment-là, que vous ayez compris
Ah
qu'il ne
oui.
pouvait pas vous nourrir.
Ah oui, d'accord. Oui. Bon, alors à la période adolescente, ça pourrait correspondre, puisque c'est une période où effectivement il était absent et des absences qui ont beaucoup créé, je pense, une déception vis-à-vis de l'homme de façon générale à cette période-là. En tous les cas, un manque de confiance,
Voilà, et
donc un
donc,
repli sur le
voilà, manque de
féminin.
confiance et une perception de l'homme immature.
Oui.
Mais quand même, par fidélité au père, vous chercheriez le même profil pour essayer de les sauver.
Oh, bah c'est compliqué cette histoire.
C'est compliqué, mais
Ok.
vous sortez de cet
Bah oui.
enfermement, vous dirigez vers la montagne. Donc la montagne, c'est le lieu de l'élévation, c'est le lieu de la spiritualité. Donc si vous avez été formaté pour être sauveuse, il semblerait que vous puissiez le faire maintenant, mais que ça se passe avec un échange.
Oui.
Et que donc ce ne soit pas toujours à votre détriment, et que vous soyez nourri en retour.
Oui, je pense que c'est le cas là.
Donc en tout cas, il y a une compréhension de ces processus, une sortie d'enfermement qui est magnifique. Comment s'achève le rêve exactement?
Et il s'achève donc lorsque je suis sur le haut de la montagne, assis sur une chaise, en train de raconter l'histoire donc de mon rêve, hein, l'histoire que j'ai vécue. Je me souviens, en fait, c'est comme un espèce de campement, là, vous savez, les campements qui sont installés pour sauver des réfugiés ou des
Oui.
immigrés. Et j'ai une couverture chaude, quoi, sur des épaules, comme si je venais de sortir d'un naufrage. Non, mais il s'arrête comme ça. Enfin, je me souviens plus vraiment. Ça, c'est la dernière image qui me reste.
D'accord. Mais donc vous
Voilà.
prenez un petit peu la place de Moïse, là.
Moi, je sais pas. prends la place de Moïse, mais en tous les cas, j'ai pas fendu la mer en deux.
Pas encore.
Pas encore.
Et peut-être que vous aurez les cheveux blancs quand vous redescendrez.
Comment?
Peut-être que vous aurez les cheveux blancs quand vous redescendrez. Alors, ce qu'on le voit dans cette scène aussi, qui correspond quand même à une scène d'exil, c'est le sentiment d'exil. Et donc, comme s'il y avait quelque chose dans votre famille qui portait l'exil, le sentiment d'être nomade, de ne pas être en droit d'être dans une terre, d'être un peuple en errance.
Oui, mais... non, mais ça me correspond tout à fait. Moi, je suis comme ça aussi, dans ma structure, dans ma façon d'être.
Mais comme vous avez gravi la montagne, il y a donc l'atteinte d'une spiritualité et une connexion avec le Père, non pas le Père charnel, mais le Père spirituel. Et donc, vous devenez conteuse, vous devenez oratrice ou prophétesse, puisque vous... narrer les pérégrinations de votre peuple et vous prenez à ce moment-là la place du Père. Alors donc, pas pour le remplacer et pour inverser les rôles, comme ce 1 et ce 2 retournés tout à l'heure, mais plutôt pour le trouver en vous et ne plus être dans une quête d'une forme qui n'existerait pas, qui serait un leurre, et pour pouvoir vous diriger peut-être enfin vers la bonne personne.
Ah, amen. Ok, c'est intéressant, c'est très intéressant tout ça. Mais ouais, moi, c'est toujours cette figure-là de ce défunt qui réapparaît dans mon rêve que je ne comprends pas. Sinon, le reste et votre interprétation et a vraiment beaucoup de sens pour moi. Mais c'est ce visage-là, hein,
il correspond
que je
aussi.
N'ai pas vu, en plus, depuis qu'il est mort. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort il y a même pas un an et demi, 2 ans, le pauvre. Donc, je sais pas.
Mais donc, il représente peut-être tous les hommes dont vous avez fait le deuil, qui n'ont pas survécu dans les relations que vous avez eues.
Ah oui, dans ce sens-là, oui. D'accord.
Mais donc, on voit quand même, à la fin, un amour... énorme, très très grand pour tous les expatriés, pour tous les nomades. Une solidarité avec tous les déshérités. Et puis ça pourrait être aussi Jésus qui enseigne. Hein.
Avec les âmes en peine plutôt, je dirais. Ouais.
Les âmes en peine, voilà. Et donc... vous seriez en train d'énoncer des béatitudes.
Sur le monde des béatitudes. Ah, c'est beau tout ça. Bah écoutez, que votre interprétation
voilà, pour conclure,
rejaillisse positivement sur ma vie de façon concrète.
Mais pour conclure, ce qui est vraiment très beau, c'est cette parabole sur l'enfermement, l'auto-enfermement et la faculté que soi-même avons à sortir. Puisque donc, si par exemple c'est le psy qui est représenté, voilà, c'est un leurre dans lequel beaucoup de personnes peuvent s'enfermer. Le psy pourrait être le sauveur, celui qui va tout faire. Non, non, le psy ne fait pas tout, il renvoie la personne à elle-même, et c'est la personne elle-même qui se décide, qui prend la décision de sortir.
Oui, au risque de se faire passer pour un fou, ou au risque de jouer une personne qui ne comprend pas, qui n'entend pas l'histoire, hein, pour nous renvoyer nous-mêmes à notre propre histoire. Et effectivement, ça a fonctionné dans ce sens-là.
Alors, je verrais quand même un déficit. J'aurais quand même un déficit de la part de la personne que vous avez vue. Mais le processus intéressant, c'est que vous n'attendez pas après. Et donc, vous ne restez pas dans la stagnation. Comme certaines personnes peuvent rester pendant des années en psychanalyse, à tourner en rond. Vous prenez sur vous et vous ne comptez que sur vous-même.
Bah, il faut compter sur soi-même, sinon on est mal barré, quoi. Non, mais bon, dans le sens où c'est très bien de recevoir de l'aide et c'est bien de la chercher pour pouvoir aussi soi-même l'apporter aux autres. Mais heureusement que... Oui, c'était très étonnant dans le rêve puisque j'avais vraiment un sentiment de lenteur, du truc qui se termine pas, quoi, vous voyez, de l'ambiance comme ça, de prison, etc. Et puis, à un moment donné, je vois que la porte est ouverte et je me dis, mais on est bête, on est con, quoi. Et là, je cours et je sors et je me suis rendu compte de ma propre bêtise comme si en fait tout cet enfermement, il n'avait pas lieu d'être et qu'il était, il n'était pas du tout orchestré ni organisé par les autres, mais par moi-même. Donc c'est vrai que ça m'a renvoyé à ma propre bêtise et à ma propre erreur.
Oui, et puis au fait
Donc,
quand même que vous avez bien pu le faire pédaler l'autre, hein.
comment?
Il est possible aussi que l'autre, si c'est le psy, vous l'avez bien fait pédaler dans la semoule.
Oui. Un petit peu, certainement, oui. Je sais pas, je pourrais pas m'exprimer.